France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Georges Guingouin. C'est l'histoire d'un chef de guerre, fondateur de l'un des principaux maquis de France, libérateur de Limoges, communiste prêt à désobéir au parti, résistant de la première heure, un homme qui, en de nombreuses occasions, a su dire non parce que sa conscience le lui dictait. Un héros tragique face à l'histoire. Dès l'été 1940, alors que les responsables communistes sont mis sérieusement en porte-à-faux par le pacte germano-soviétique, le jeune Guingouin prend le maquis. Et il devient le colonel Guingouin, s'opposant régulièrement aux consignes du PCF, menant le combat comme il l'entend, évitant d'exposer inutilement les civils. Mais après la guerre, il paie cher, très cher, cette désobéissance. Exclu du parti, diffamé par la presse de droite comme de gauche, arrêté sur la foi d'un faux témoignage, emprisonné, battu et laissé quasiment pour mort, il ne doit qu'à sa force de caractère de survivre. Enfin libéré, il mène avec acharnement un combat qui vise à laver son nom des accusations infamantes qu'on a fait peser sur lui. Notre invité aujourd'hui est Louis Plenel, journaliste, cofondateur du site d'information Mediapart et admirateur de Georges Guingouin. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Visio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Nous sommes en août 1940. Quelques semaines plus tôt, l'armée française a été balayée par les nazis. La drôle de guerre s'achève par une pitoyable défaite. Pétain signe l'armistice. Le soldat de deuxième classe, Guingouin, est alors hospitalisé à Moulins pour des blessures sans gravité. Mais pas question d'attendre que les Allemands fassent de lui un prisonnier de guerre. Il quitte la ville et rejoint Saint-Gilles-des-Forêts, la commune de la Haute-Vienne où il était instituteur, secrétaire de mairie et où il animait les 5 cellules du Parti communiste du canton d'Émoutiers avant-guerre. De sa propre initiative, il lance un appel à la lutte, dénonçant la dictature fasciste du régime de Pétain à Vichy, dont voici un extrait.
Messieurs les assassins installés à Vichy, pourront tout à leur aise détruire les dernières libertés du peuple de France, établir le régime de l'obscurantisme et du mensonge, faire leur révolution grâce aux baïonnettes hitlériennes, instaurer la dictature. Derrière Pétain, vieillard revenu en enfance, incapable de présider l'Assemblée nationale, c'est le sinistre aventurier Laval, c'est la clique des assassins fascistes s'apprêtant avec l'aide d'Hitler à exploiter honteusement le peuple de France.
Georges Guingouin a 26 ans, il vient de faire ses premiers pas dans la résistance. Mais reprenons l'histoire au début. Il naît le 2 février 1913 dans les environs de Limoges. Son père, sous-officier de carrière, est tué le tout premier jour de la Grande Guerre. Sa mère, institutrice, directrice d'école, veille sur son fils et le biberonne aux valeurs de la République. Le jeune Guingouin est ainsi marqué par la guerre, comme dans toute la région. Le Limousin a payé un lourd tribut à la boucherie de 14-18. Les paysans rouges, nombreux dans la région, ont été envoyés en première ligne. Car depuis la fin du XVIe siècle et la révolte des croquants, le Limousin est une terre d'insurrection, rappelle le journaliste Michel Taubman, auteur de l'ouvrage « L'affaire Guingouin ».
Les Limousins sont pauvres, mais fiers de leur tradition de solidarité et de lutte. Le soir, à la veillée, les anciens racontent les grandes heures de Limoges-la-Rouge, l'insurrection de 1848, la commune de 1871 qui a tenu pendant une semaine, la fondation de la CGT en 1895, enfin la grève générale de 1905 réprimée par l'armée dont les balles tuèrent un ouvrier de 20 ans.
Très jeune, Georges Guingouin devient un lecteur passionné. Littéralement, à s'en brûler les yeux, aggravant en effet sa myopie qui l'oblige à porter des lunettes, monture sombre et verre épais qu'il portera toujours. Où il dévore tout, les livres d'aventure ou l'illustration qu'il entraîne chaque semaine dans l'actualité du monde. Il est fasciné par 93 de Victor Hugo, formidable roman sur la Révolution française. Plus tard, il lit Le Capital de Marx, de bout en bout, mais aussi Engels, Lénine, Voltaire, Rousseau, Bergson. En 1931, il entre à l'école normale de Limoges. Son biographe, Michel Thomann, relate alors ce qui est son état d'esprit.
À l'école normale, le jeune homme se tourne progressivement vers le communisme. Entre socialiste et communiste, son esprit rigoureux et sa soif d'absolu l'ont incité à choisir ceux qui agissent comme ils parlent, les moins portés au compromis, les plus rouges, les héritiers de Robespierre, personnage qu'il a pris pour thème de son exposé d'histoire. À 20 ans, l'instituteur en formation franchit le pas du premier engagement concret en adhérant à la CGTU, le syndicat des ouvriers révolutionnaires.
En 1935, il rejoint son premier poste d'instituteur à Saint-Gilles-les-Forêts. C'est aussi cette année-là qu'il adhère au Parti communiste. Guingouin devient rapidement responsable du secteur des Moutiers, qui englobe les cellules de 5 cantons. Sa vie se partage alors entre l'école et le parti. Elle est détaillée ici par Jean-Pierre Le Dantec dans sa biographie romancée intitulée « Un héros, vie et mort » de Georges Guingouin.
Missionnaire de la République, il apprend aux enfants de sa classe unique à lire, écrire et compter, tout en leur enseignant, grâce aux leçons d'histoire et de morale, les principes qu'il a calligraphiés en lettres capitales sur le tableau noir : liberté, égalité, fraternité. Chaque soir, il s'échappe, parcourant la montagne Limousine au volant de sa voiture pour porter la bonne parole et consolider l'organisation du parti. De réunion électorale en réunion de cellules, de prise de parole dans les préaux d'école en intervention dans les cafés-épiceries, Guingouin argumente sans relâche, défendant les conquêtes sociales du Front populaire, vantant les réalisations de l'Union soviétique, pourfendant le fascisme, critiquant la non-intervention en Espagne, et se crée un réseau d'amis et de camarades qui constituera le terreau du futur maquis.
Le 23 août 1939, la signature du pacte germano-soviétique est un choc. Mais, ardent admirateur de l'URSS, Guingouin accepte l'explication avancée par Moscou. C'est une ruse de Staline pour avoir le temps de s'armer en vue de l'affrontement qui ne manquera pas d'avoir lieu entre communistes et fascistes. Quelques jours plus tard, la guerre est déclarée. Dès l'armistice conclu par Pétain en 1940, Guingouin entre tout naturellement en résistance, poussé par l'urgence de lutter tout à la fois contre les nazis et leur laquais, le gouvernement de Vichy. À Saint-Gilles-des-Forêts, il reprend contact avec les anciens militants de son secteur pour les convaincre qu'on ne peut pas ne rien faire. Et il en témoigne ici.
Il fallait d'abord montrer que des hommes se dressaient contre le fascisme. Et il fallait aussi expliquer. Naturellement, il fallait expliquer. C'est pour cela qu'à ce moment-là, au début du mois d'août, j'ai ici fait mon appel à la lutte.
Le premier noyau clandestin compte une vingtaine d'hommes, organisés par groupe de 3 pour sécuriser le réseau. Chacun ne connaît que les 2 autres, n'aura donc que 2 noms à donner en cas d'arrestation ou de torture. Et tous prennent un nom de guerre, Guingouin devient Raoul. Tandis qu'il lance son appel à la lutte, le PCF, entravé par le pacte germano-soviétique, renvoie dos à dos Pétain et De Gaulle, liés l'un aux capitalistes allemands, l'autre à la City. Le parti s'oppose aux actes isolés et surtout exclut de s'en prendre aux Allemands, affirmant ceci « Nous sommes le parti de la fraternité des peuples, nous devons être sans haine vis-à-vis des soldats allemands. » Guingouin refuse ces atermoiements. Mettre sur le même plan l'Angleterre et l'Allemagne, De Gaulle et Pétain, cela ne peut pas être une ligne politique juste, déclare-t-il. Et le voilà déjà fiché dans les instances supérieures comme trop indépendant, trop personnel, trop indiscipliné. Mais il a mieux à faire que de s'en inquiéter. Non, il s'agit avant tout de résister. Mais comment ? Guingouin donne ici une réponse. Au micro de France Culture, en 99, dans l'émission À voix nue, il a alors 86 ans.
Résister, ça veut dire faire acte, c'est-à-dire agir. Pour agir, eh bien, il faut trouver un groupe d'amis. Et il faut amener ces groupes d'amis à agir sur la population, c'est-à-dire agir sur la population par la craie, par le papier, les imprimés, et même plus tard les journaux. Et mon premier tract fut édité pendant l'automne 1941. Et mon premier tract commençait comme ceci exactement. Camarades paysans, je lis, ils ont assassiné la République française, celle que t'avais donnée en héritage tes ancêtres quand ils prenaient les châteaux des seigneurs.
Guingouin récupère alors la Renault et la machine à écrire qu'il avait opportunément cachée en 1939. Il s'installe dans une cache aménagée parmi les ballots de paille dans la grange d'un ami paysan. Bien. Mais comment diffuser les tracts au-delà du petit cercle des camarades? Eh bien, il y a une idée.
J'ai pensé à ce moment-là au grand rassemblement paysan qu'il y a dans la région au moment des foires. Et moi-même, la veille de la première grande foire des Moutiers, toute la nuit je l'ai passé inondant de tracts le foirail des Moutiers. Le lendemain, arrivé à la piquette du jour, les paysans se sont simplement par curiosité précipités sur les tracts et la plupart les ont glissés dans leurs poches et c'était eux-mêmes qui les rapportaient dans les villages et qui étaient nos diffuseurs.
Quand sa cache est compromise, Raoul se réfugie dans les bois. C'est le début du maquis du Limousin, qui sera l'un des principaux en France. Après la rupture du pacte germano-soviétique, le Parti communiste entre lui aussi en résistance, créant des groupes FTP, les francs-tireurs et partisans. Raoul devient responsable du premier groupe de la région. Mais très vite, un nouveau désaccord l'oppose au parti. En mai 42, Gabriel Roucault, l'un des dirigeants Zone Sud, lui transmet des directives. Déplacer les actions de résistance en ville, ce que Guingouin juge suicidaire. Non, le combat doit être mené en campagne, sur le terrain que les résistants connaissent. Roucault, qui qualifie Guingouin de fou qui vit dans les bois, transmet son refus aux dirigeants communistes. Dès lors, Raoul, désavoué par le parti, se retrouve seul face à la police, à la milice et à la Gestapo. Qu'importe, il continue le combat. À la tête de ses hommes, il multiplie les coups de main. Vol de dynamite, destruction de machines, sabotage d'un viaduc, coupure du câble téléphonique qui relie la base sous-marine de Bordeaux à l'état-major de la marine allemande à Berlin et tant d'autres actions. Guingouin a toujours à l'esprit les mots de son cher Victor Hugo, adressés en 1870 aux combattants de la toute jeune Troisième République qui affrontaient les Prussiens.
Ô francs-tireurs, allez, traversez les Alliés, passez les torrents. Profitez de l'ombre et du crépuscule. Serpentez dans les ravins. Glissez-vous. Rampez, ajustez, tirez, exterminez l'invasion. Défendez la France avec héroïsme, avec désespoir, avec tendresse. Soyez terribles, ô patriotes. Arrêtez-vous seulement quand vous passerez devant la chaumière pour baiser au front un petit enfant endormi. Car l'enfant, c'est l'avenir. Car l'avenir, c'est la République.
Guingouin est activement recherché par les Allemands et par la milice française. Sa tête est mise à prix par la Gestapo, très cher, 3 millions, mais sans succès. Parce que personne ne dénonce Lou Grand, Le Grand, un autre de ses surnoms que les maquisards et la population admirent et respectent. Par sa détermination à combattre sans relâche les Allemands, par son souci d'organiser, malgré eux, les territoires occupés, Guingouin gagne le surnom de préfet du maquis. Il fixe notamment le prix des denrées alimentaires. L'information est délivrée par voie d'affichage. Le principe, un juste prix pour le producteur, un prix raisonnable pour l'acheteur. Celui qui contrevient se voit promettre des représailles exemplaires. L'historien Fabrice Grenard, auteur d'une biographie de Guingouin, revient sur cette spécificité du résistant dans l'émission « Autant en emporte l'histoire » en octobre 2021.
Je trouve que l'expression qui le qualifie le mieux, c'est « préfet du maquis », une expression qu'il a lui-même créée et qui va servir à le qualifier ensuite après la guerre, parce qu'effectivement, parmi les chefs de maquis, c'est l'un de ceux qui va peut-être le plus penser la question des relations avec les populations locales et qui va bien chercher à montrer à ces populations que le maquis, ce n'est pas le désordre, comme cherche à l'expliquer la propagande de Vichy, mais c'est au contraire un contre-pouvoir discipliné et organisé, d'où les arrêtés du préfet du maquis qu'il diffuse dans sa zone, d'où cette appellation et d'où les sanctions qu'il appliquera à l'égard dans son propre camp des maquisards qui feront preuve d'indiscipline.
Au printemps 1944, devant son influence et les forces qu'il représente dans la région, le Parti communiste reprend Guingouin sous son aile. Peu après, Raoul est nommé chef départemental des FFI, les Forces Françaises Intérieures, qui fédèrent les différentes organisations de résistance armée, qu'elles soient communistes, gaullistes ou catholiques, soit une armée de 14 000 hommes. Ces FFI ont pour mission de retarder le plus possible la remontée des Allemands vers la Normandie, où le débarquement vient d'avoir lieu. Le maquis du Limousin s'y emploie très efficacement. Le 9 juin 1944, la capture d'un chef de bataillon SS, puis la négociation pour le libérer, retarde de 48 heures la Panzerdivision en chemin vers la Normandie. D'ailleurs, Eisenhower lui rendra hommage avec ces mots. « Cette action des maquis a sauvé la tête de Pontallier », déclare-t-il en juillet 1944. C'est au début de juin 1944 que Guingouin reçoit du parti l'ordre de libérer Limoges. Ce qu'il refuse. Non, il ne veut pas que les civils paient dramatiquement la note, comme cela s'est passé quelques jours plus tôt à Tulle, où 99 civils ont été pendus en représailles de la tentative de libération de la ville. Le préfet du maquis décide plutôt d'encercler la ville et de négocier la reddition des Allemands. Sans qu'une goutte de sang n'ait été versée, il entre dans Limoges en vainqueur le 21 août 1944. Mais qu'importe le succès, le Parti communiste ne lui pardonnera pas cette nouvelle désobéissance. Après avoir reçu la reddition des Allemands, le premier geste de Guingouin est de se rendre à la prison où tous ceux qui étaient détenus, torturés parfois, ont été libérés. L'un d'eux, Marc Parotin, raconte la scène dans un livre de souvenirs.
Et le voilà, le chef prestigieux du maquis de la Haute-Vienne. Il vient d'entrer avec un petit groupe d'hommes en kaki. On se le montre, le héros limousin de la lutte clandestine. Je vois derrière de grosses lunettes un regard énergique empreint d'émotion qui embrasse la foule des détenus. Et de partout éclatent des vivas enthousiastes. Vive Guingouin! Vive le maquis!
La guerre est terminée. Dans certaines villes, l'épuration donne lieu à des débordements, à des actes de vengeance. Alors, pour canaliser les pulsions de la population, le colonel Guingouin fait diffuser un communiqué sur les ondes de Radio Limoges le 25 août 1944, interdisant, je cite, « toute arrestation effectuée sans mandat d'amener régulier émanant de la hiérarchie FFI ». D'ailleurs, une cour de justice militaire a été instituée 3 jours plus tôt, à sa demande. Début 1945, Guingouin est victime d'un grave accident de voiture, pour le moins suspect, qui l'immobilise plusieurs mois. Le Parti communiste souhaiterait-il supprimer cette forte tête? Peut-être. Quelques jours plus tôt, Guingouin essuyait plusieurs coups de feu d'un individu qui connaissait manifestement son emploi du temps. À l'époque du maquis, un projet d'assassinat avait déjà été déjoué. On ne peut encore aujourd'hui que supposer. Mais Guingouin est manifestement un caillou dans la chaussure du Parti communiste. Dès son retour de l'hôpital, il découvre que les militants l'ont désigné à l'unanimité comme candidat à la mairie. Et le 10 mai 1945, la liste qu'il conduit, celle de l'Union patriotique républicaine et antifasciste, est élue à une écrasante majorité. Guingouin devient donc maire de Limoges. Il a 32 ans, il est couvert de médailles de gloire, bien méritées. Légion d'honneur, bien sûr, rosette de la résistance, croix de guerre avec palme, médaille Garibaldi, des partisans italiens, médaille du courage remise par le roi d'Angleterre, acte de reconnaissance de la nation américaine et honneur rare pour un communiste, de Gaulle le fait compagnon de la libération en octobre 1945 avec ces mots.
De 1940 à 1942, Georges Guingouin a été le hors-la-loi, l'incarnation de la résistance civile en Limousin. Durant la période héroïque de 1942 à 1944, il est difficile de faire un choix parmi ses innombrables faits d'armes. Chef et soldat, il a donné le plus magnifique exemple d'héroïsme, de maîtrise de soi, de mépris total de la mort. Extraordinaire entraîneur d'hommes que son exemple galvanise, il constitue une des plus belles figures de la résistance.
Guingouin vient de se marier. Voilà, La vie va reprendre son cours dans la joie de la paix retrouvée. Mais non, d'autres années noires l'attendent.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison de. Dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, l'ennemi l'a su. Il est mort sans surprise. Souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Georges Guingouin, un résistant, un vrai.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Guingouin n'est maire de Limoges que 2 ans, de 1945 à 1947. Il se trouve que le PCF et la SFIO, l'ancêtre des socialistes, qui régnaient sur la ville depuis des années, lui mettent des bâtons dans les roues. Pire, une campagne de dénigrement menée par le quotidien conservateur L'Époque lance les accusations les plus invraisemblables, les plus infamantes. Guingouin aurait commis dans le maquis des crimes contre des résistants gaullistes pour s'emparer de stocks d'armes. Guingouin serait même un nouveau Doriot, l'homme qui est passé du communisme à l'extrême droite et à la collaboration. Toutes ces horreurs, la direction du parti les laisse dire. Et le journal Humanité esquisse une très molle et très tardive défense. Alors Guingouin attaque en diffamation, gagne. Et comme permanent de la Fédération de Haute-Vienne, il continue à servir le Parti communiste, ou du moins l'idée qu'il s'en fait. Et c'est en 1952 que l'attaque frontale du parti est déclenchée. Guingouin, qui a continué à multiplier les critiques sur l'action des dirigeants communistes pendant la guerre, est sommé de faire son autocritique et de cesser ses attaques. Mais l'homme n'a pas l'échine souple. Il résiste, refuse, fustigeant le centralisme totalitaire dont le parti fait preuve, sacrilège. Et sanction immédiate. En novembre, il est exclu du comité fédéral, privé de tous ses mandats, il devient un simple adhérent. Voici, résumé dans la fiction Le Grand Georges, film que François Martouret a consacré en 2012 à Guingouin, la litanie des reproches qui lui sont adressés, dans le plus pur langage stalinien qui était celui du Parti communiste français à l'époque.
Notre parti a dressé la longue liste des erreurs commises par Georges Guingouin. Obstination à demander des comptes à la direction de notre parti sur la période de la guerre. Activité fractionnelle, mégalomanie, complicité pendant la guerre avec des envoyés de Londres. Liaison avec les services d'espionnage et de renseignement de puissances capitalistes. Mise en cause de la fidélité inconditionnelle envers l'Union soviétique.
Privé de mandat, Guingouin est aussi privé de ressources. Il redevient maître d'école. Le 15 janvier 1953, il démissionne du conseil municipal où il était encore adjoint, abandonnant la vie politique. Écœuré peut-être, désabusé certainement. Et cette fois, il est vraiment seul. Pour ses ennemis, vichistes, policiers, magistrats, l'heure de la revanche a sonné. Le 24 décembre 1953, il est convoqué au palais de justice de Tulle à propos de deux assassinats perpétrés par des résistants à la fin de la guerre. Bon, s'y rend, serein, persuadé que le juge ne souhaite que son témoignage. Seulement voilà. Il ignore que le dossier a été monté de toutes pièces par une crapule, un inspecteur de police de Limoges, ancien membre de la police vichiste. Un homme qui avait échoué à mettre la main sur lui pendant toute la guerre et qui avait échappé à l'épuration. Selon ce seul et unique témoin, Guingouin aurait pris part à une réunion, une sorte de conseil de guerre, au cours duquel il aurait donné l'ordre d'abattre ces deux personnes. Et c'est inculpé de complicité d'assassinat et menotté qu'il ressort du palais de justice. Le prétexte est maigre, l'enquête est bâclée, mais ça n'a aucune importance. Le déboulonnage du héros peut commencer. Le populaire du centre, quotidien de la SFUO, est l'un des plus féroces. Il se fait l'écho des accusations les plus fantaisistes, sans conditionnel, et publie une série d'articles intitulés « Limousin, terre d'épouvante » où les résistants communistes se voient traités de tueurs. Même la grande presse s'y met, dans une exploitation politique peu reluisante. Le Figaro évoque « la terreur rouge dans toute la région en 1944 pour préparer la prise de pouvoir par les communistes », je cite bien sûr. Et le journal Le Monde ne joue pas plus la défense. Témoin cet article signé André Sevry, paru le 20 janvier 1954.
Le passage de Georges Guingouin à la mairie de Limoges est sans histoire. Mais il a peut-être permis à ceux qui l'approchèrent de déceler la vraie nature de l'homme. Le 17 mai 1945, surlendemain de son élection, il arrive dans la salle des séances en uniforme de colonel et dépose son colt près de l'encrier. Quand le peintre Vandenberg vient fixer au mur le portrait qui le représente, Guingouin juge l'œuvre quelconque, peu ressemblante. Il regrette au fond d'avoir posé en vêtements civils. Il aime les acclamations qu'on lui prépare à la sortie des banquets et des conférences. Il préside, il patronne, il parle, il ordonne, il défile, il inaugure.
Guingouin est tombé de ce piédestal, pourtant amplement mérité, celui du chef résistant sans peur et sans reproche qu'il a été. Après son éviction du Parti communiste, c'est donc la deuxième affaire Guingouin qui commence. Incarcéré, il est immédiatement placé à l'isolement à la prison de Brive, où le régime est féroce. Son courrier est ouvert, la presse en a connaissance avant lui. Mais aussi dur que soit sa détention en cet hiver 54, où des températures polaires s'abattent sur la France, Guingouin ne se laisse pas abattre. Il fait quotidiennement de la gymnastique, il rédige ses souvenirs du maquis. Il a même bon moral. Son avocat l'a informé que le juge d'instruction doit incessamment lui accorder la liberté provisoire. Mais le 23 février 1954, vers 9h du matin, les deux gardiens qui entrent dans sa cellule ne viennent pas le libérer. L'un, le chef, est armé d'un gourdin, l'autre se retrousse les manches. Georges Guingouin n'a pas l'esprit très clair. Depuis plusieurs jours, on le drogue. Au premier coup de gourdin asséné violemment, il trouve quand même la force de réagir, fonce sur ses assaillants. Mais le combat est inégal. Le prisonnier est roué de coups pendant de longues minutes, laissé pour mort. Ce qui arrive ensuite dépasse l'entendement. Le médecin de la prison ne le fait pas soigner en urgence. Non, il veut réfléchir avant de poser un diagnostic. Finalement, la version officielle établit que le détenu a été pris d'une crise de folie et a attaqué ses geôliers qui, donc, ont dû se défendre. D'ailleurs, Guingouin n'est-il pas décrit depuis la guerre comme le fou qui vit dans les bois ? En fin de journée, il est envoyé à la prison de Toulouse, inconscient, mais tout de même menotté, sait-on jamais ? Michel Thomann le raconte dans l'affaire Guingouin.
Les responsables, rassemblés à la sous-préfecture de Brive, ne semble pas s'inquiéter de la pénibilité pour le moribond d'un voyage de près de 300 km sur une route sinueuse par une nuit hivernale. Pourquoi s'en inquiéterait-il ? On persiste officiellement à douter de la réalité même des graves blessures dont souffre le prisonnier. Dans son compte-rendu, adressé le lendemain au ministère de l'Intérieur, le secrétaire général de la préfecture écrira « Il ne semble pas impossible d'envisager une maladie simulée par l'intéressé. »
Guingouin devrait être pris en charge à la section psychiatrique de la prison, sauf qu'il n'en a pas. Alors mis en cellule, il gît dans le froid, la pénombre et la puanteur, qui, montant de la tinette, s'ajoutent à celle de son corps que personne n'a cru bon de laver, écrit Jean-Pierre Le Dantec dans l'ouvrage qu'il lui a consacré. Il faudra une intervention du ministre de la Justice, saisi de multiples protestations émanant de comités de résistants, pour que le détenu, au 9e jour de sa crise de folie, entre guillemets bien sûr, soit transféré à l'hôpital. Et il survit. Oh, ce n'était pas gagné, mais l'homme est solide. Il lui faut cependant 2 mois pour se rétablir, et encore plusieurs mois avant d'être libéré. La mobilisation amorcée à l'annonce de sa tentative de suicide consécutive à une crise de folie, selon la version officielle diffusée par la presse, ne faiblit pas. Et c'est à nouveau le garde des Sceaux qui donne l'ordre au juge d'instruction de procéder à la mise en liberté de Georges Guingouin. Il quitte la prison le 14 juin 1954. Amaigri, affaibli, vieilli avant l'heure, mais toujours combatif. Il est libre, certes. Mais il veut être lavé des accusations portées contre lui. Il veut un non-lieu. Et pendant les 5 années qui suivent, il y consacre son temps et son énergie. Mais cette fois, il n'est plus seul. Un comité de défense de Georges Guingouin réunit des grands noms de la résistance de l'époque et de la scène intellectuelle, alerté par un retentissant article du résistant Claude Bourdet dans France Observateur. Même De Gaulle y va de son témoignage, rappelant dans un message du 14 avril 1955 « Je n'ai pas oublié que Guingouin fut un combattant de la liberté et qu'il a maintes fois risqué sa vie pour la France. » Quant à l'avocat du comité, c'est un tout jeune homme originaire de Limoges, dont le père, grand résistant socialiste, a été fusillé par les Allemands au printemps 1944. Il s'appelle Roland Dumas. Et il revient ici sur l'affaire. Nous sommes en 1984. Il répond à Michel Thomann, qui lui demande si Guingouin a été victime d'une machination.
J'en ai eu très tôt l'intuition, et j'en ai eu très vite la preuve. C'était une machination qui partait de loin. Dès 1945, une campagne de dénigrement a commencé contre Georges Guingouin et en même temps contre les maquis, et au travers des maquis contre la résistance. Elle s'est développée de 1945 à 1953, et pas à pas, j'ai pu démonter la machination. J'ai pu démontrer notamment que les policiers qui avaient été chargés de l'enquête en 1953 étaient les mêmes, vraiment les mêmes, qui avaient conduit des enquêtes pendant l'occupation contre les maquisards, contre les résistants, qui étaient à l'origine d'arrestations, de déportations et de morts de certains maquisards, dont quelques-uns étaient précisément proches de Guingouin. Nous avons eu les procès-verbaux en main.
Contre toute logique, et vu la minceur et la faiblesse des accusations portées contre lui, l'affaire suit son cours judiciaire. Et Guingouin est renvoyé en cour d'assises, et il atterrit au palais de justice de Lyon, après un deuxième pourvoi en cassation. Nous sommes alors le 13 novembre 1959, et le substitut Thomas, chargé en principe de l'accusation, prend la parole et dit « Je ne comprends pas, en mon âme et conscience, qu'on ait engagé des poursuites contre Georges Guingouin. » Une parole juste, enfin. Et un non-lieu est prononcé le 19 novembre. Guingouin est totalement blanchi. Mais la presse ne l'évoque qu'avec de maigres entrefilets, sans commune mesure en tout cas, avec les gros titres qui signalaient son emprisonnement. Aucune enquête judiciaire n'est lancée pour mettre au jour les origines de cette magouille policière. Rarement un homme aura été autant éprouvé. Rarement un homme aura eu autant d'ennemis à combattre. Michel Thoman le résume ainsi dans l'affaire Guingouin.
Entre les communistes, qui voyaient en lui un renégat, les macartistes français, qui le considéraient toujours comme un communiste, et les nostalgiques de Vichy, qui saisirent l'occasion de salir la résistance, il ne restait plus grand monde pour défendre le vaillant instituteur, sur qui, selon le mot du poète et résistant Jean Cassou, l'iniquité s'est étrangement acharnée.
Mais Guingouin n'est pas du genre à cultiver l'amertume. Il reste encore et toujours un résistant. Dans le bulletin des amis du musée de la résistance de Limoges, il continue de s'exprimer haut et fort. Il tense les multinationales qui délocalisent et privent d'emploi les travailleurs. Il dénonce une société de plus en plus inégalitaire et il s'élève contre la quête effrénée du profit menée par les milieux de la haute finance. En 1998, 45 ans après l'avoir exclu, après l'avoir laissé seul face à la clique réactionnaire, le Parti communiste reconnaît enfin ses torts dans un courrier de Robert Hue, alors premier secrétaire.
Nous savons quels procédés ont été utilisés et mesurons toute l'injustice que présente votre exclusion. Le reconnaître aujourd'hui n'efface certes pas les blessures, mais je tenais néanmoins à vous le faire savoir à vous, le chef des FDP du Limousin, et à vous exprimer ma très profonde considération.
Guingouin meurt en 2005 sans avoir jamais rien renié de ses convictions ni de ses engagements. Un homme trop droit, sans doute, pour une époque tortueuse et ses contorsions politiques. Jusqu'au bout, il est resté un communiste de cœur, persuadé que la liberté est un bien essentiel, que l'égalité mérite qu'on se batte pour elle, que la fraternité ne peut que vaincre. Il le disait encore en 1984 dans le film que lui a consacré Michel Thoman.
Colonel Guingouin, aujourd'hui, vous croyez à quoi vous? Vous croyez encore au socialisme?
Je crois toujours à un avenir meilleur. Et je suis certain que ce qu'il y a 150 ans, les meilleurs penseurs socialistes pensaient de l'avenir humain se réalisera tôt ou tard. C'est une question de temps. Et le phénomène qu'il y a, si on peut dire que nous sommes en une période de mutation de civilisation, alors que depuis que l'homme existe, les mutations de civilisation étaient très longues, 200, 300 ans, 400 ans. Maintenant, elles sont très rapides. En 20 ou 30 ans ou 40 ans, on arrivera à une civilisation nouvelle.
Il y a aujourd'hui des rues et des avenues Georges Guingouin dans plusieurs villes de France, dont Limoges, bien sûr, mais pas à Paris.
France Inter. Affaires sensibles.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, l'histoire de Georges Guingouin. Notre invité est Edoui Plenel. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, bien sûr, et vous vouez une vraie admiration à Georges Guingouin. Par exemple, sur FR3 Limousin, en octobre 2015, à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort, vous êtes exprimé, j'ai retenu la phrase, vous qualifiez Guingouin de ce que le récit national peut avoir de meilleur. Quels sont les ingrédients de cette admiration?
Oui, je dis le récit national dans ce qu'il a lui-même de meilleur, le récit républicain d'une république démocratique, sociale. L'émotion, c'est d'entendre sa voix tout à l'heure.
Ah.
Sacré, et avec cet accent et cette musique de la voix. La république de l'égalité des droits, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence. Le maquis de Guingouin était aussi un maquis internationaliste, qui a sauvé des juifs, qui a accueilli des républicains espagnols, qui a accueilli le monde. Donc c'est un héros que tout le monde devrait connaître en France. C'est le plus grand maquis de France, c'est le plus grand maquisard de France, vous l'avez bien dit. C'est un homme qui s'est dressé tout seul et qui a su résister tout seul, qui a été un grand chef de guerre, qui a mené des combats comme probablement aucun maquis n'a mené de combats aussi intenses sur une si longue durée. Ensuite, c'est un héros populaire. Et ça, c'est essentiel. C'est un héros du peuple. Mmh. C'est un instituteur qu'il est resté dans l'âme. Et d'ailleurs, il a repris sa vie après. C'est un homme qui était au cœur de cette tradition de résistance populaire, paysanne, dans, dans le Limousin. Je me souviens, quand je faisais mon service militaire là-bas, de l'histoire de Burgou, bandit Limousin, sorte de banditisme social, de résistance au château, ou au porcelainier de Limoges, aux grands bourgeois.
Des Robins des Bois, quoi, partout.
Oui, exactement. Il est du côté du peuple. Il y a eu des très grands résistants que nous célébrons, qui ont été évidemment des officiels, qui ont été des grands personnages de l'État, ou des grands cadres de parti. Guingouin est une exception de ce point de vue. C'est la figure du chef de guerre venu du peuple. Et enfin, et ça nous parle, et il y a de quoi être ému, c'est un héros tragique, digne d'une tragédie grecque.
Ah,
toute la coalition des lâchetés, des renoncements, de ceux qui n'ont pas été au rendez-vous de l'éthique et des principes, se sont retournés contre lui. Vous avez raconté, évidemment, le Parti communiste, et on y reviendra. Mais le maire socialiste qui se retourne contre lui avait voté les pleins pouvoirs à Pétain.
Et c'est le journal socialiste aussi qui est très dur avec lui.
Évidemment. Donc, et évidemment, toute la part d'ombre de notre histoire, nous le savons tous, les résistants ont été minoritaires. La majorité de l'appareil d'État, de l'appareil économique, de l'appareil médiatique, intellectuel, a accepté l'abaissement national, l'étrange défaite, comme disait Marc Bloch. Je suis sidéré que le nom de Guingouin, comme une figure qui nous redresse, qui nous élève, ne soit pas connu.
Bah, nous y contribuons, là.
Hein? Bravo.
Bon. Alors, c'est à l'époque où vous étiez journaliste au Monde, je crois que vous avez rencontré Guingouin. C'était dans quelles circonstances ?
J'avais un chef de service au Monde qui était corrézien, pas loin du le Limousin, et qui lui-même était d'une histoire de résistance, comme la famille de Roland Dumas, comme le père de Roland Dumas. Et la campagne contre Guingouin rebondit, c'est au moment où l'extrême droite commence à relever la tête électoralement en France. Les premiers succès sont en 1984, et un magazine proche de l'extrême droite, Le Crapouillot, recycle toutes les saloperies contre Guingouin. Et c'est mon chef avec, je vais citer son nom, il n'est plus de ce monde, Jean-Maurice Mercier, un de ces hommes de l'ombre qui font les bons journaux, qui sont derrière, qui sont aux manettes, un canardier, qui me dit, Plenel, là, vous devriez aller voir. Et donc, je vais voir, et j'arrive à Sainte-Savine, dans la banlieue de Troyes, petite maison, modeste, il me reçoit dans sa cuisine, raide comme la justice, comme un homme de principe qu'il était et qu'il est resté. Il avait posé mon premier livre, et ça parlera à notre époque, puisque mon premier livre venait de paraître et il s'appelait « L'effet Le Pen ». Nous n'en sommes pas sortis. Et il l'avait posé un peu comme ça, sur la cuisine. Il l'avait déjà annoté, c'est tout juste si je n'ai pas passé un interrogatoire d'abord. Et j'ai fait cet article le 9 juillet 1985. Voilà, une plainte en diffamation contre le Crapouillot, je l'ai sous les yeux, le combat pour la mémoire et pour l'honneur du colonel Guingouin, résistant limousin. Et après, c'est le seul homme qui, jusqu'à la fin de ses jours, j'ai appelé mon colonel. On était souvent au téléphone. Il m'écrivait des lettres, il s'affolait de comment le monde tournait. Il m'envoyait les bulletins de son association. J'ai d'ailleurs adhéré à l'association des amis du musée de la Résistance. Vous saviez, il y avait une cérémonie tous les étés au Mont Gargan où il y a eu ces principaux combats de ce maquis et où on imagine tous ces vieux résistants avec leur bedaine et il les faisait rentrer la bedaine et il faisait son discours. Pour moi, voilà, c'est... On rencontre peu de héros authentiques dans une vie. On a tous des vies qui peuvent être compliquées, qui peuvent être de compromis. Et cet homme, il a fait face. C'est un homme libre, un homme seul. Et donc, voilà.
Alors, il y a d'autres héros comme ça dans cette période. Il y a Jean Zay, par exemple. Je dis Jean Zay, bon, c'est dans un style différent. Je dis Jean Zay parce qu'il est au Panthéon. Et je me dis, Guingouin au Panthéon. Ce serait une fière idée, non ?
Oui, j'avais dit ça aux gens de la télé du Limousin. Mais depuis les dernières cérémonies au Panthéon, je ne sais pas si je leur dirais. Bien sûr que sa place serait logique, hein, aux grands hommes, les femmes aussi, la patrie reconnaissante.
Et, oui.
Et sa place serait logique.
Mais, parce qu'il serait connu, là, pour le coup.
Oui, oui, mais, bien sûr. Mais il y a tellement eu d'instrumentalisation,
oui.
Tellement eu d'hypocrisie, tellement eu de double langage. Vous vous rendez compte, la dernière cérémonie pour des résistants, c'était les FTP-MOI, main-d'œuvre immigrée, c'était Manouchian et ses camarades. Et c'était quelques semaines après la loi immigration, faite avec l'extrême droite, donnant droit à la déchéance de nationalité ou à la préférence nationale, plutôt, et au fait qu'il y ait des ayants droit et des sans droit selon la naissance, le contraire même du message républicain de l'égalité. Mmh. Et donc, voilà, si c'est aller au Panthéon pour qu'on dise des mots qui soient des mots de rachat, comme on irait à confesse chez le curé du coin, et pour... commettre des péchés dehors, hors de l'Église. Mais oui, sa place devrait être au fronton de toutes les mémoires, en tout cas des mémoires vives de ce pays. Car c'est une histoire qui doit parler à la jeunesse, vous l'avez rappelé. Il se dresse, il dit non, il n'a que 26 ans.
Oui, on oublie ça aussi, 26 ans, quelle maturité quand même, on est un gamin à 26 ans souvent.
Et ses camarades sont jeunes, c'est un chef de guerre avec des jeunes, et ce sont des jeunes qui sauvent l'espoir, et qui sont traités de bandits, de voyous, de terroristes, d'assassins. Le préfet du Maquis, c'est lui en effet qui invente cette formule, et il l'invente pour s'imposer.
C'est très CNR, ça. C'est-à-dire qu'on se bat d'abord et on pense à la France d'après.
C'est le Conseil national de la résistance, et c'est ce qu'on lui reprochera, parce que lui voudra que la dynamique de la résistance continue. Il faut voir ce qu'est Limoges avec les porcelainiers, avec une très vieille bourgeoisie, avec quelque chose qu'il faut ébranler. C'est nul hasard si la CGT a tenu son congrès de fondation en 1895 à Limoges. Hein, c'est un lieu de lutte des classes, Limoges. Oui. Hein, c'est un lieu cœur de cette espérance. Et donc, Guingouin, il est de ce côté-là. Et pourquoi je cite le préfet du Maquis ? Car il ne faut pas être d'une fleur bleue. Hein. Il faut dire aussi combien, quand je dis c'est un chef de guerre, il fallait s'imposer. Hein. C'était David contre Goliath. Le préfet du Maquis, justice a été faite. Et c'est pour ça qu'ils vont se venger et qu'ils vont le calomnier. Oui, oui, le Maquis de Guingouin a exécuté des collaborateurs. Oui, il a exécuté des collaborateurs.
Par sa dague de guerre, quoi.
Bien sûr.
Nous sommes en guerre, à cette époque-là. Alors, je vais vous poser une question peut-être un peu audacieuse, mais lui, il est sur le terrain, il prend tous les risques, alors que Thorez, lui, est à Moscou, Duclos est caché en Belgique. Est-ce que ces gens-là ont eu peur que la paix revenue, Guingouin leur fasse de l'ombre et peut-être même leur pique la place ?
Mais ce n'est pas une question audacieuse, c'est une question totalement pertinente. Le Parti communiste stalinien, on ne parle pas du Parti communiste d'aujourd'hui, qui a d'ailleurs reconnu et qui a réhabilité Guingouin, le Parti communiste stalinien a été totalement dans l'aveuglement. Il n'a pas été au premier jour dans la résistance, ce sont des communistes individuels qui ont été dans la résistance, mais l'appareil a été dans cette idée d'hésitation, de demander la reparution de l'humanité, même à l'occupant. Et donc, ceux qui ont eu raison trop tôt vont être la honte, le reproche vivant pour l'appareil. Il n'y a pas que Guingouin. Tous les internationalistes, les anciens des brigades internationales, les Charles Tillon et d'autres vont être purgés. D'ailleurs, il y a une figure dans le Maquis de Guingouin qui est intéressante de ce point de vue. Une figure discrète qui va être préfet à Limoges, à la Libération, qui va être son vrai conseiller militaire, Jean Chintron. Issu d'une famille ouvrière, un ancien des brigades internationales, un militant anticolonialiste totalement chevronné, internationaliste, et Jean Chintron, nul hasard, qui va avoir parfois, parce que, évidemment, Guingouin était un homme pas commode, hein, et Chintron aura parfois des petites étincelles avec lui, mais Chintron va être ensuite un des plus longs oppositionnels internes au Parti communiste. Il va créer un courant qui était un courant clandestin au sein du Parti communiste, c'est une histoire cachée, Unir pour le socialisme, qui va mener les batailles au sein du Parti communiste contre la stalinisation, contre la bureaucratie. Les gens qui viennent faire reproche à Guingouin, c'est des bureaucrates, c'est des gens qui n'ont jamais pris un risque de leur vie, c'est des gens, des professeurs rouges d'en haut. C'est, alors, le Parti communiste, c'est à la fois le meilleur à cette époque, des militants d'une générosité formidable, d'un dévouement formidable, et puis cet appareil qui instrumentalise tout cela. Mais écoutez, on connaît toute cette histoire de chagrin. Hein, mais ce qui est fort, je trouve, et vous l'avez rappelé, Guingouin n'a pas jeté l'eau avec le bébé du bain. Il n'est pas sorti, il n'est pas sorti avec du ressentiment, de l'aigreur. Il a gardé l'idéal. C'est pas parce qu'il y a des crapules qui profitent de l'idéal pour faire carrière, pour s'enrichir, pour réussir, qui sont des futurs peut-être dictateurs et autres, que l'idéal n'a pas de raison d'être. L'espérance n'est jamais terminée, y compris contre les pouvoirs issus de l'espérance.
Je disais tout à l'heure, le patriotisme est une idée noble. Hein. Le nationalisme, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Il est la figure du patriotisme. Il reste quand même fidèle aux idées du Parti communiste, mais il va contre les ordres du Parti communiste par patriotisme. Il met la défense de la France et de ses valeurs républicaines au-delà de sa croyance dans le communisme. C'est ça le patriotisme.
Oui, c'est le patriotisme républicain aussi. C'est le patriotisme non pas d'une France immobile qui aurait une identité éternelle. C'est la France de la République universelle. Vous parlez de ce patriotisme, il y a un autre Limousin. Au même moment, il s'appelle Edmond Michelet. Oui. Il est péguiste, c'est pour ça que je parle de la République universelle, de Charles Péguy. Il diffuse un petit tract, quelques textes de Péguy, lui, en juin 40, tiré de l'argent. Hein, on ne se renonce pas, on ne se rend pas. Et voyez bien, entre ce chrétien venu, qui est Edmond Michelet, et ce communiste, c'est le poème La Rose et les Résédas d'Aragon. Oui. Et c'est des mots qui devraient résonner dans notre temps, je les ai amenés. Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat. Fou qui songe à ses querelles, au cœur du combat commun. Du commun combat, pardon, pour la rime.
Oui, pour
voilà.
La rime.
La Rose et le Résédat, 1944. Voilà.
Bon, il nous reste que 30 secondes, Edwy Plenel. Je voudrais quand même signaler le livre à paraître, sous votre plume, qui s'appelle Le Jardin et la Jungle, adresse à l'Europe sur l'idée qu'elle se fait du monde. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu désespéré quand même par rapport à l'Europe. Le constat est difficile. Hein.
Oui, mais c'est le même appel que ceux qui ont dit non.
D'accord.
C'est un appel à dire non, et c'est, vous savez, l'inquiétude et l'antichambre de l'espérance.
Ce sera le mot de la fin, cher Edwy Plenel. Ce livre est édité à La Découverte. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Georges Guingouin. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.